L'âge bête sur RCN.
Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Et bonne année l'équipe.
Bonne année.
Voilà, c'est reparti donc tous les mercredis hein, donc pour cette émission. Voilà, on est quand même arrivé en studio, ça a été compliqué avec les trains évidemment, ça c'est comme d'habitude. On va faire un petit tour de l'équipe qui m'entoure. À mes côtés, celui qui pourrait être le remplaçant de Stéphane Bern pendant ses congés. Clément, bonjour.
Salut. On va parler de cristal aujourd'hui.
Très bien, alors celle qui nous dit que 23% des femmes ont fait de la tapisserie ou pour quelqu'un qui a déjà tout, il faut lui offrir des piles rechargeables. Tout ça en deux chroniques. Ottilie, bonjour.
Eh bien aujourd'hui, on va parler baccalauréat.
Très bien. Et celui qui nous refroidit chaque semaine avec les derniers rapports du GIEC alors qu'il fait 15 degrés pour le nouvel an. Clovis, bonjour.
Bonjour Martin, aujourd'hui nous allons parler des déchets.
Des bonnes nouvelles ou comme d'habitude des mauvaises?
Ça peut aller dans le bon sens.
Allez, donc celle qui, j'espère, après la résolution de nous faire des questions de culture niveau CE1 pour qu'on ne paraisse pas complètement débile. Lucie, bonjour.
Bonjour.
Niveau des difficultés?
Ah, toujours divers et variés.
Bon, bah, on verra bien. Entre l'hyperpop, la dubstep, la future bass, la pop, l'électro, le hip-hop, la musique classique, en 4 émissions, elle a déjà dépassé notre connaissance en styles musicaux. Naïm, bonjour.
Bonjour, on parle de Snorunt aujourd'hui.
Très bien. Quel style de musique, lui?
Oh, c'est compliqué, mais on va dire hyper pop pour simplifier.
Ok. Enfin, celui qui réussit, assez véridique, à confondre un tractopelle avec une vache, c'est pour ça qu'il est dans cette émission qui s'appelle L'âge bête. Alan, bonjour.
Bonjour, j'espère que vous êtes préparés pour les énigmes d'aujourd'hui, parce que ça va être chaud.
On espère. Allez, on est ensemble jusqu'à 14h30 sur RCN.
RCN, L'âge bête.
Et on commence donc cette émission, comme d'habitude, par un petit point histoire avec toi, Clément.
Petit point histoire. On va commencer. Est-ce que vous savez déjà dans quel département se situe la plus ancienne cristallerie de France?
Oula.
C'est une bonne question.
C'est un département où il n'y a pas grand monde.
La Corrèze?
Non.
La Meuse?
Toujours pas.
La Creuse?
Toujours pas. C'est un massif montagneux.
D'accord. Dans le massif central alors?
Non, toujours pas.
Dans les Alpes?
C'est plutôt vers chez nous plus que dans le massif.
Dans les Vosges.
Dans les Vosges.
Voilà, c'est plutôt vers les Vosges. Entre les Vosges et l'Alsace. Donc on va parler aujourd'hui de la cristallerie de Saint-Louis, donc créée en 1586 en Moselle, dans la vallée de Mounsal. C'est la plus ancienne cristallerie de France, comme on a pu la dire. Cependant, elle a connu donc des débuts compliqués. Il y a eu une cessation d'activité suite à la guerre de 30 ans, donc au XVIIe siècle, qui a fait des ravages dans la région. Et jusque-là, on n'a pas eu beaucoup d'activités. En 1767, Louis XV donne le nom de la verrerie royale de Saint-Louis à l'atelier. Et à partir de là, ça devient l'une des puissances de l'économie française. En 1781, Monsieur Beaufort découvre la composition du cristal au plomb, alors que jusqu'à là, seule l'Angleterre possédait la formule. La verrerie obtient le certificat de cristallerie de la part de l'Académie royale des sciences et devient ainsi la première de France. Jusqu'en 1825, la verrerie continue de produire du verre, mais depuis elle produit uniquement du cristal. Les années qui suivent sont témoins d'une sophistication et d'un apprentissage de la maîtrise du cristal. La verrerie va voir ses techniques évoluer et va produire de plus en plus.
Donc c'est à partir de ce moment qu'il y a une sorte d'industrialisation de la cristallerie.
Voilà, à partir de 1834, tout va s'accélérer et la verrerie va lancer le service Trianon, va commencer à commercialiser du verre sur table, hein, donc des verres à boire, de la vaisselle, tout ça, tout ça. On va commencer à mouler le cristal, à le mettre en couleur, à produire des lustres, etc. On va graver le verre à l'acide, par exemple, puis plein d'autres techniques, le cristal filigrané, le cristal coloré dans la masse, le cristal pressé, l'opaline de cristal, le cristal doublé, voire même triplé des fois. La verrerie de Saint-Louis va participer à l'exposition universelle. Après l'annexion de l'Alsace-Moselle en 1871, la cristallerie va trouver de nouveaux acheteurs en la figure des Allemands. Et depuis, on crée des lampes à pétrole, des globes d'éclairage pour les compagnies de chemin de fer allemandes. En 1938, la collection Tommy est lancée, alors que le président français reçoit Georges V à Versailles, donc le père de la reine Elisabeth qui est partie il n'y a pas longtemps. Il y a près à cette réunion de 200 convives qui se voient fournir 11 verres chacun. Ça fait un total de 2200 pièces de verre réalisées à cette occasion. En 1989, le groupe Hermès, qui œuvre dans le prêt-à-porter et dans le luxe, rachète une partie de la cristallerie Saint-Louis et obtiendra la seconde en 1994. Depuis, le nombre de collaborations avec des artistes de tous les milieux augmente. C'est la seule cristallerie au monde à maîtriser encore les presse-papiers en cristal. Ça peut peut-être vous sembler pas compliqué à faire, un presse-papier en cristal, mais en fait c'est tout un travail minutieux et chaque année il y a des nouvelles collections de presse-papier en cristal qui débarquent. Et puis faute de pouvoir peut-être s'offrir une pièce en cristal, on pourra toujours aller visiter les ateliers et surtout la grande place musée du cristal Saint-Louis.
Évidemment, merci Clément pour ce petit point histoire. Et puis alors maintenant on va comparer les générations avec toi Ottilie. Tu voulais nous parler du baccalauréat, mais il vient d'où le baccalauréat ?
Eh bien d'abord le baccalauréat, donc c'est un examen qui a été créé au Moyen-Âge. En fait c'était pour le premier des grades de l'Université de Paris, donc qui est maintenant la Sorbonne. En fait il disparaît après la Révolution française et réapparaît avec Napoléon Ier en 1808 pour les garçons. Sa première session, elle a lieu en 1809. Elle a diplômé 32 bacheliers. C'est à partir de 1919 que les filles peuvent décrocher ce diplôme. C'est en 1924 que le baccalauréat devient identique pour les filles et les garçons. Et déjà, le terme baccalauréat vient du latin médiéval et ça veut dire couronne de laurier. Donc en 1948, l'Académie de Nancy a les meilleurs taux de réussite avec 66% pour la première partie des épreuves, avec 1120 admis pour 1692 inscrits, et 76% pour la deuxième partie, avec 838 admis pour 1099 inscrits. Pour la France, donc pour la même année, il y a 30 349 admis après la deuxième partie.
Et à l'époque, comment le baccalauréat était composé ? Il y avait des filières ou des spécialités ? Comment ça se passait ?
Eh bien, il y avait différentes spécialités. Donc, c'était philosophie ou sciences expérimentales ou mathématiques. De 1965 à 1995, donc, ce sont les filières avec des lettres. Donc, le A équivaut au bac L, donc après. Le B, c'est l'équivalent d'un bac ES. Le C, donc, c'est avec des mathématiques, de la physique-chimie, la géométrie et de l'algèbre. Le D, c'est physique, chimie, biologie et géologie. Et le E, donc, c'est enseignement scientifique et enseignement technique industriel. Donc finalement, donc, en 2021, les filières elles sont remplacées par des spécialités qu'on connaît. Et donc en 2022, alors, le taux de réussite est de 91,1%. Pour l'Académie de Nancy-Metz, c'est 92% de taux de réussite pour 23 006 candidats inscrits. C'est donc 21 168 admis. Depuis 1995, le taux de réussite a augmenté de 20 points, passant de 75% à 94% en 2021. Donc cet examen, il est très difficile à rater maintenant. Et je vais avoir une petite question pour vous. En France, donc le bac il se déroule en juin, sauf dans deux territoires outre-mer. Lesquels ? Et pour vous, quand a lieu du coup l'examen pour eux ?
Il y a la Réunion déjà, je crois.
Non.
Eh ben super.
Pas la Martinique.
Aussi au mois de juin.
La Nouvelle-Calédonie.
Oui, la Nouvelle-Calédonie.
Wallis et Futuna.
C'est ça. Et voilà. Et ça se passe quand ?
Oh bah ça, en c'est mai. Février.
En novembre.
Yes.
Voilà.
Allez.
Et donc c'est voilà, c'est fini pour aujourd'hui.
Ok, mais n'empêche que je notais, il y a 10 fois plus, c'est normal, hein, de candidats juste dans la partie Nancy-Metz qu'il y a en 1948. On est passé de 2000 à plus de 20 000 admis. Donc merci Ottilie de nous avoir refait découvrir le bac qu'on va passer bientôt nous aussi ici dans l'équipe. Allez, on revient dans quelques instants sur scène, on parlera déchets avec toi Clovis. On fera un petit quiz de culture générale dans la suite de l'émission. Passez une très bonne journée sur RCN.
Je vais faire un tour, j'enroule un, j'oublie tout. Je suis pas si boulette, prouve l'argent, ça n'arrête pas les coups. L'amour m'appelle, mais mon cœur est sourd. Un dernier FaceTime, puis la vie reprend son cours. Aucun billet ne sécheront tes joues pleines de larmes. Tu me cours après, mais je cours après milliers de dollars. Je réponds car je sais pas si tu me rappelleras. Je crois plus au coup de foot car il ramène l'orage. Je vois ma grand-mère quand quand je me regarde dans le miroir, je vois son reflet, même plongé dans le noir. Je prends 10 ans ferme, rien n'est trop pour toi. Ce FaceTime est peut-être la dernière fois que je te vois. 2-3 millions et je vais ski. Flemme de leur fausse modestie. Le vrai amour ne s'achète pas, mais quand tu l'as, faut s'investir. Plus je m'habitue aux problèmes que l'argent amène, et plus je consomme ma bouteille, je dois l'acheter à la mer. Et si je me perds, je perds ma perle rare. Je sens que le vent souffle, mais où ça mènera? L'argent, les femmes, tout ça me tire vers le bas. Et il en faut bien plus pour arrêter l'orage. Je vois ma grand-mère quand je me regarde dans le miroir. Je vois son reflet, même plongé dans le noir. Je prends 10 ans ferme, rien n'est trop pour toi. Ce FaceTime est peut-être la dernière fois que je te vois. Et je crie Mayday, Mayday, l'avenir a la raison. Je connais le chemin de la maison. J'ai juste perdu mes clés. Lumière du club m'éclaire. Visage fermé, fermé. Venez m'enfermer, fermé. Pour elle, je peux prendre perpète. J'en ai un arrêt sur image. Même avec un filtre, la vie est moins belle sur FaceTime. Avant que tout s'arrête, je dois te dire une dernière fois. J'oublierai rien de tout ça. Je vois ma grand-mère quand je me regarde dans le miroir. Je vois son reflet, même plongé dans le noir. Je prends 10 ans ferme, rien n'est trop pour toi. Ce FaceTime est peut-être la dernière fois que je te vois. J'ai peur de te faire sonner, sonner, sonner. Sans que tu puisses décrocher. Sonner, sonner, sonner. Sonner.
Bête. Allez, toujours en compagnie de cette belle équipe de jeunes, on va parler déchets, Clovis.
Oui, en effet, un sujet qui n'est pas mis en avant, mais pourtant ça pollue. Donc en France, avec 546 kilos de déchets par an et par habitant, celle-ci est dans la moyenne européenne. Là où elle est quasiment dans la moyenne européenne, c'est aussi dans le recyclage des déchets avec 42,9% contre 67,6% pour nos voisins allemands.
Et quels sont les secteurs qui polluent le plus en France alors ?
Eh bien, en premier, c'est assez logique, la construction avec 81% pour le public et 19% pour le bâtiment. Après, nous avons donc le reste des activités économiques avec 21% et du coup, pour finir, les ménages avec 11%.
Et en France, ça donne quoi le recyclage ?
En France, le recyclage, c'est 83% des déchets des poubelles jaunes qui sont recyclés, c'est 100% de l'acier, 85% du verre, 70% du papier et du carton, mais c'est 26% du plastique qui place la France avant-dernière du classement européen. Il y a une dévalorisation des déchets organiques, avec seulement 97 kg par habitant de déchets compostés contre 200 kg par habitant, par exemple en Autriche. Les consignes, parfois illisibles, complexifient les gestes de tri avec des couleurs de poubelles trop variées. Par exemple, à Bordeaux, ça va être jaune et à Paris, ça va être bleu. Et puis Toulouse, ça va être arc-en-ciel. Donc voilà, le plastique dans les mers est un véritable enjeu. La France produit 4,5 millions de tonnes de déchets plastiques. Elle en rejette dans la Méditerranée environ 11 000 tonnes sur 13 millions chaque année. L'une des plus polluées au monde, la Méditerranée, alors qu'elle représente 1% des eaux marines dans le monde et elle compte 7% de tous les microplastiques. Un taux de concentration de 1,25 million de fragments par kilomètre carré. Soit 4 fois plus que dans l'île du plastique qui se trouve au Pacifique Nord, je le rappelle.
1,5 million par kilomètre carré, bah ça fait beaucoup quand même. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour promouvoir le recyclage du plastique ?
Alors moi, je vais vous annoncer quelques solutions qui, pour moi, me paraissent satisfaisantes. Donc, en premier temps, nous avons... Donc, il s'agirait d'installer massivement des cendriers collecteurs pour recycler les mégots dans les rues, et notamment à l'extérieur des bâtiments, des lieux de travail, etc. Deuxièmement, nous avons une réduction de la TVA sur les produits fabriqués à base de plastique recyclé afin de le rendre plus compétitif. Et troisièmement, en Pour terminer, je propose une tarification incitative, comme l'a déjà fait 200 collectivités pour 6 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est une facture par habitant qui baisse de 35% et le tonnage des ordures ménagères de 40%. Donc le but, ça serait donc de le développer sur tout le territoire.
Donc, oui, c'est vrai.
Ouais. Donc si vous avez d'autres solutions, je suis preneur.
Je fais pas partie du GIEC ou de je ne sais quoi, moi. Faut pas me regarder, moi.
Mais... En tout cas, ce qui est vrai, c'est que certains ramassent de moins en moins aussi les poubelles, par exemple une fois toutes les deux semaines, pour aussi adapter les gens à moins jeter. Puis pour le plastique, on voit de plus en plus aussi, ils emballent moins dans le plastique aussi. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué quand même, ils ont tendance à réduire.
Le carton.
C'est dans le papier et le carton, et le papier et le carton, c'est quand même 70% de recyclage, donc c'est bien plus que le plastique déjà.
Affaire à suivre, donc. Allez, culturons-nous, comme on dit chaque semaine, avec toi, Lucie, avec le quiz de culture générale.
Bah c'est parti, commençons avec une question de géographie. Quel est le plus grand pays du monde ?
Russie. La Russie.
Oh. Exactement, la Russie fait à peu près 30 fois la France. C'est déjà Clément qui gagne.
Non.
C'est moi. Hein.
C'est toi.
C'est Alan. C'est moi qui fais les comptes.
Je me fais déjà prendre.
C'est pour ça qu'il n'est pas content. Tout s'explique. Continuons avec une question de mathématiques. Combien faut-il de zéros pour écrire en chiffres 50 millions ? Vous pouvez s'imaginer.
7.
Exactement, c'est 7. Très 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 bien vu.
Tu peux avoir le point, j'ai dit beaucoup. Ça marche pas.
C'est vrai que ça compte. Non. Continuons donc ensuite avec une question d'histoire. Quelles ont été les premières paroles de Neil Armstrong quand il a mis un pied sur la Lune en 1969 ?
C'est un petit pas, un grand pas pour l'humanité, un petit pas pour l'homme ou un truc comme ça ?
Un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité.
Eh bien non !
Allez !
En fait, il a dit un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité. Qu'il a dit que c'est un petit pas pour l'homme, mais après avoir écouté des enregistrements, il a dit c'est un petit pas pour un homme. Donc on s'est trompé depuis des années.
Merci la NASA.
Continuons ensuite avec quel fleuve est commun à la France et à l'Allemagne ?
Le Rhin.
Exactement, le Rhin prend sa source dans les Alpes suisses. Il mesure environ 1320 km, ce qui est déjà pas mal pour un fleuve.
C'est vrai. On aurait pu parler aussi de la Moselle, hein, parce que qui passe qui dans les deux pays
aussi.
Et qui se jette dans une mer, donc c'est un fleuve aussi.
C'est vrai. Continuons ensuite avec encore une question d'histoire. Sur quoi reposent principalement les travaux de scientifiques de Pierre et Marie Curie ?
Bah, la radioactivité.
Exactement, la radioactivité. Il me semble même d'ailleurs que leurs affaires sont encore radioactives. Ouais. Alors je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou...
Ah, c'est possible.
Et il me semble aussi qu'on en avait parlé la semaine dernière.
Oui,
et l'année dernière aussi, du coup, hein,
oui,
ça marche aussi.
Oui, c'est vrai.
Continuons ensuite avec une question sur les oiseaux. Quel nom d'oiseau utilise-t-on pour désigner un auteur de lettres anonymes ?
Corbeau ?
Oui.
Quoi ?
Oui, le corbeau.
D'accord.
Pour moi, ça parle
d'oiseau. J'ai cru que t'avais
dit un truc au pif. Ah, non,
dans l'affaire du petit Grégory.
Ah, oui, je connaissais pas
le corbeau.
Oui, le corbeau.
Pas que le petit.
Je m'attendais pas à ce que tu fasses un lien avec cette affaire. Mais
bah oui, mais le corbeau.
Oui, non, mais c'est vrai. Oui.
Continuons ensuite avec la dernière question. Quel est le véritable nom du dramaturge français qu'on appelle Molière ?
Jean-Baptiste Poquelin.
Exactement. Les travaux de français en auront servi à quelque chose. Et ben voilà, j'en ai fini avec les questions de culture générale.
Parfait, merci Lucie. Alors là, c'est qui a gagné ?
Ça change beaucoup, c'est Clément qui a gagné. Il va falloir nous en laisser un peu quand même, parce que là, on se fait ridiculiser.
Ah bah attends.
3 points contre 1 pour moi et 2 pour Clovis et personne pour le reste.
Mais je suis là pour ça.
Pas rien pour le reste. Oui, t'es là pour ça. Bah,
bon, allez, on parle musique maintenant avec toi, Naïm. Tu nous parles de Snorunt.
Oui, c'est un jeune musicien aussi assez particulier qui a réussi à apporter une touche de nouveauté à la musique française en 2022. Donc premièrement, il utilise beaucoup le franglais, ce qui est assez étonnant au premier abord, ça peut même faire bizarre, mais on finit par s'y habituer. Et donc, ça permet d'utiliser des sonorités qui ne sont pas habituelles dans la musique française, donc par exemple faire des rimes en way ou avec ce genre de choses, donc souvent à la fin des vers pour pouvoir avoir des nouvelles rimes. Ces instrumentages sont très électroniques, donc avec des éléments électroniques, mais aussi des éléments qui viennent d'autres genres musicaux, donc ça peut être de la pop, du rock, peu importe. Donc par exemple, dans le morceau qu'on va écouter, il y a des percussions qui sont très électroniques, mais la mélodie et la basse sont plutôt rock. On peut aussi remarquer la voix, qui est très marquante parce qu'il chante de manière assez sobre, mais avec beaucoup d'effets, donc avec un peu d'autotune, un peu de modification de pitch, ça peut être de la saturation, ça peut être des glitches, bref. Mais tout est volontaire. C'est comme s'il était buggé, mais volontairement. Et pour finir, il y a un univers qui est très marqué par la culture geek, en particulier par les jeux vidéo et Internet. Donc par exemple, jusque dans son pseudo, Snorunt, qui est le nom anglais du Pokémon Stalgamine.
D'accord.
Bref, on écoute Glizzard par Snorunt.
Baby, me parle pas de sunset. J'suis sous le blizzard de la route 216. Toujours pas un pied dans ta chaise. J'suis encore m'cool, mes chiens, ouais. J'suis encore m'cool, mes chiens, ouais. Mais tu sais que c'est dur de vivre avec tous les soucis que j'ai dans ma tête. J'suis encore m'cool, mes chiens, ouais. J'suis encore m'cool, mes chiens, ouais. Et tu sais qu'il y a beaucoup de soucis dans ma tête, 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 tête. J'suis encore m'cool, mes chiens, ouais. Et tu sais qu'il y a beaucoup de soucis dans ma tête, 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 tête. Mais tu sais que c'est dur de vivre avec tous les soucis que j'ai dans ma tête. Toujours pas un pied dans ta fête. Je me couche à l'heure où le soleil se jette. Est-ce que j'ai investi à peine? Je suis happy si je suis dans un rêve. Mais je sais que tu voudrais me voir souffrir. Moi tu veux tirer un trait. Moi je voulais te voir sourire. T'as du mal à croire que c'était vrai. T'as du mal à croire que c'était vrai. J'suis tout seul dans mon bed. J'pense au fait que la vie s'est faite. J'attends le jour où tout s'arrête. J'ai pas répondu à tes mails. T'as du mal à croire que c'était vrai. Sur moi tu veux tirer un trait. J'ouvrais encore mon col, mais j'suis au bout. T'as du mal à croire que c'était vrai. J'ai pas répondu à tes mails. J'ai pas répondu à tes mails. Je me demande pourquoi tu stresses. Mais tu sais que c'est dur de vivre avec tous les soucis que j'ai dans ma tête. Toujours pas un pied dans ta tête. Je veux encore me couler mes cheveux. Je veux coucher à l'heure où le soleil se lève. Je sais ce que j'ai investi à peine. Je suis happy si je suis dans un rêve. Je veux encore me couler mes cheveux. Mais tu sais que c'est dur de vivre avec tous les soucis que j'ai dans ma tête. Toujours pas un pied dans ta tête. Je veux coucher à l'heure où le soleil se lève. Je sais ce que j'ai investi à peine. Je suis happy si je suis dans un rêve. C'est qu'il y a beaucoup de soucis dans ma tête, 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 tête.
L'âge bête sur RCN.
Il est déjà 14h23, ça passe vite cette émission. Allez, on a parlé culture, on a parlé musique, on a parlé histoire, on a parlé écologie. Parlons mathématiques, Alan.
Allez, j'espère que vous êtes prêts à vous creuser l'esprit, puisqu'aujourd'hui on va faire, comme dans la vieille émission, déchiffrer des lettres, on va faire un compte bon. Je vais vous donner, alors pour le coup seulement 4 chiffres et un chiffre cible, et vous allez utiliser les multiplications, divisions, soustractions et additions pour obtenir cette cible.
Allez, c'est parti.
On commence vite. Je vous donne le 4, le 2, le 5 et le 8, et je veux du 21. Et vous 21. Utilisez tout,
4,
tous les noms.
2, 5, 8.
4, 2, 5, 8 pour aller à 21.
Alors, 2 fois 5,
alors,
10.
Attends.
2 fois 4, 8. Ouais. Ça fait 16.
Oui. Ça fait 16.
Non, 8. Non, excusez-moi. 2 fois 8. 2 fois 4, 8. Plus 8, 16. Plus 5, 21.
Bien joué, Clovis.
Ouais. Voilà.
Alors, il faut savoir quand même que ce genre d'énigme, ça a pas mal de solutions différentes. Et celle-là, elle en avait 6 autres. 6 ou 7, ouais, 7 au total, donc 6 autres solutions.
D'accord.
Alors je vais pas toutes les citer, mais Clovis avait celle que j'avais notée d'ailleurs, donc c'est
voilà.
Félicitations.
Bravo Clovis, je nous trouve maintenant de belles énigmes mathématiques, alors que bon, c'est pas forcément ton point fort. On est dans le même bateau, écoute, avec Clovis, donc je peux lui dire. Allez, on va faire un petit tour de table de l'actualité. Alors, j'ai cru comprendre qu'on avait beaucoup parlé de manifestations, Clément.
Ouais, les manifs au Pérou qui ont fait 16 morts.
Et c'est donc c'était des manifs pour...
Bon, c'était des manifs contre le gouvernement en place, ça ouais, fait 16 morts. Bon.
Et ça continue encore, hein, c'est un pays encore en tension actuellement.
Mais il n'y a pas que en Amérique du Sud qui font des manifs.
Oui, oui et bah, au Brésil, hein, je pense on a tous entendu parler, donc les pro-bolsonaristes qui ne sont pas contents du président, ils n'en veulent plus.
Et Casto.
Voilà.
Ouais. Ça reste toujours quelque chose qui n'est pas forcément évident à comprendre, mais c'est des images en plus assez impressionnantes. Mmh.
C'était coloré.
Oui, alors, c'est vrai que du coup...
Contrairement à la prise du Capitole où c'était tout noir...
Ouais, c'était... Bon, c'est différent. Mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus, vous n'avez pas l'impression qu'il y en a de plus en plus ce genre de...
Surtout en Amérique du Sud, après ouais, l'Amérique du Sud, c'est récurrent chez eux. Hein.
C'est compliqué.
Avec, hein. Quand on retourne 50 ans en arrière, tous les coups d'État... qui ont eu lieu là-bas, c'est quand même assez fréquent chez eux.
Oui, c'est vrai. C'est des pays...
plutôt instables.
C'est un peu compliqué. J'avais une autre actu, alors ça va faire écho à ta chronique écologie, hors pas celle d'aujourd'hui, mais en 2022, les catastrophes naturelles climatiques qui ont fait 11 000 morts dans le monde et causé 270 milliards de dollars de pertes. Ça fait quand même un petit chiffre au final.
Ah oui.
Oui, 211 000 morts, quoi. J'ai dit, bon, et puis ça s'accentue en fait d'année en année, ce qui peut être normal puisque c'est un phénomène en accélération.
Tu parlais de pertes. Je vais continuer avec l'aérospatial. L'américain Eiko a finalisé le rachat du français Exelia, qui est spécialisé dans les composants militaires et dans l'industrie spatiale européenne. Et donc, on a encore une fois perdu cette entreprise au profit des Américains.
Donc les Américains ont une nouvelle entreprise spatiale.
Exact, et c'était l'une des plus performantes en France sur ce secteur.
D'accord, donc ce sera donc, peut-être pour de nouvelles... D'ailleurs j'avais une question à propos de... Peut-être qu'on en reparlera du spatial. Pour vous c'est important qu'on aille dans l'espace, qu'on aille explorer tout ça?
Pas forcément.
Je pense qu'il faudrait déjà explorer les océans avant ça. Notre planète à nous, avant d'aller explorer les autres planètes alentour.
Pour moi c'est très important.
D'aller voir ailleurs.
La découverte d'autres choses, d'un autre monde autre univers, je trouve cela fascinant.
Mais c'est vrai que c'est assez passionnant. Enfin, je sais que ça m'arrive de regarder en partie et en même temps, je me dis que bon, voilà quoi, on a déjà pas mal de choses à faire aussi chez nous, mais bon, après voilà.
Mais c'est rassurant.
Oui.
C'est rassurant quand tu sais que ça va pas à un endroit, tu te dis si on trouve un endroit où ça va bien.
Après, il faut y aller. Hein.
Ça pourrait nous permettre de trouver des solutions, des choses,
de découvrir plein de choses.
C'est quelque chose d'assez, d'assez incroyable.
Mais on découvre pas mal de choses. Peut-être qu'on retournera sur la Lune. J'ai lu 2026, je crois. On verra bien d'ici là. Allez, on va terminer cette émission par une citation, Clément.
Ouais, un extrait d'une des chroniques de la semaine dernière de Willy Rovelli. Il parle ici de la hausse des prix de l'énergie pour les boulangers.
Bruno Le Maire qui a promis d'aider les boulangers. C'est le fameux « quoi qu'il en croûte ».
Voilà. C'est bon, je crois qu'on va s'arrêter là avec les jeunes mots aujourd'hui.
Il n'en faut pas beaucoup pour nous faire rire, nous.
Oui, c'est vrai. Allez, comme si un train était en retard, comme pour venir. Hein.
Ouais, c'est bon, ça.
Le problème, c'est que ce n'était pas une blague. Allez, merci l'équipe d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Merci à Damien, à la technique. On se retrouve donc la semaine prochaine à 14h. Passez une très bonne journée à l'écoute d'RCN.